Chapitre 6. Nouveauté en fait de l'égalité. La presse a le droit d'être censurée, le droit d'être avertie, le droit d'être suspendue, le droit d'être supprimée. Elle a même le droit d'être jugée. Jugée par qui? Par les tribunaux. Quels tribunaux? Les tribunaux correctionnels. Et cet excellent jury trié? Progrès. Il est dépassé. Le jury est loin derrière nous. Nous revenons aux juges du gouvernement. La répression est plus rapide et plus efficace, comme dit Maître Rouher. Et puis c'est mieux. Appelez les causes. Police correctionnelle, 6e chambre. Première affaire, le nommé Roumage, escroc. 2e affaire, le nommé Lamennais, écrivain. Cela fait bon effet et accoutume le bourgeois à dire indistinctement un écrivain et un escroc. Certes, c'est là un avantage. Mais au point de vue pratique, au point de vue de la pression, le gouvernement est-il bien sûr de ce qu'il a fait là? Est-il bien sûr que la 6e chambre vaudra mieux que cette bonne cour d'assises de Paris, par exemple, laquelle avait, pour la présider, des Partarieux la fosse si abjecte, et pour la haranguer, des Suins si bas et des Mongis si plats? Peut-il raisonnablement espérer que les juges correctionnels seront encore plus lâches et plus méprisables que cela? Ces juges-là, tout payés qu'ils sont, travailleront-ils mieux que ce jury escouade qui avait le ministère public pour caporal et qui prononçait des condamnations et gesticulait des verdicts avec la précision de la charge en 12 temps? Si bien que le préfet de police Carlier disait avec bonhomie à un avocat célèbre, M. Desmes, « Le jury, quelle bête d'institution! Quand on ne le fait pas, jamais il ne condamne. Quand on le fait, il condamne toujours. » Pleurons cet honnête jury que Carlier faisait et que Rouher a défait. Ce gouvernement se sent hideux. Il ne veut pas de portrait, surtout pas de miroir. Comme l'Orfraie, il se réfugie dans la nuit. Si on le voyait, il en mourrait. Or, il veut durer. Il n'entend pas qu'on parle de lui. Il n'entend pas qu'on le raconte. Il a imposé le silence à la presse en France. On vient de voir comment. Mais comment faire taire la presse en France? Ce n'est qu'un demi-succès. On veut la faire taire à l'étranger. On a essayé 2 procès en Belgique. Procès du bulletin français. Procès de la nation. Le loyal jury belge a acquitté. C'est gênant. Que fait-on? On prend les journaux belges par la bourse. Vous avez des abonnés en France. Si vous nous discutez, vous n'entrerez pas. Voulez-vous entrer? Plaisez. On tâche de prendre les journaux anglais par la peur. Si vous nous discutez, décidément, non, on ne veut pas être discuté. Nous chasserons de France vos correspondants. La presse anglaise a éclaté de rire. Mais ce n'est pas tout. Il y a des écrivains français hors de France. Ils sont proscrits, c'est-à-dire libres. S'ils allaient parler, ceux-là, s'ils allaient écrire, ces démagogues, ils en sont bien capables. Il faut les en empêcher. Comment faire? Bâillonner les gens à distance, ce n'est pas aisé. Monsieur Bonaparte n'a pas le bras si long que ça. Essayons pourtant. On leur fera des procès, là où ils seront. Soit, les jurys des pays libres comprendront que ces proscrits représentent la justice et que le gouvernement bonapartiste, c'est l'iniquité. Ces jurys feront ce qu'a fait le jury belge, ils acquitteront. On priera les gouvernements amis d'expulser ces expulsés, de bannir ces bannis. Soit, les proscrits iront ailleurs. Ils trouveront toujours un coin de terre libre où ils pourront parler. Comment faire pour les atteindre? Rouher s'est cotisé avec Baroche, et à eux deux ils ont trouvé ceci. Bâcler une loi sur les crimes commis par les Français à l'étranger, et y glisser les délits de presse. Le Conseil d'État a dit oui, et le corps législatif n'a pas dit non. Aujourd'hui c'est fait, si nous parlons hors de la France, on nous jugera en France. Prison pour l'avenir, en cas, amende et confiscation. Soit encore. Ce livre-ci sera donc jugé en France et l'auteur dûment condamné. Je m'y attends. Et je me borne à prévenir les individus quelconques, se disant magistrats, qui, en robe noire ou en robe rouge, brasseront la chose, que le cas échéant, la condamnation à un maximum quelconque bel et bien prononcé, rien n'égalera mon dédain pour le jugement, si ce n'est mon mépris pour les juges. Ceci est mon plaidoyer. Chapitre 7. Les adhérents. Qui se groupe autour de l'établissement ? Nous l'avons dit, le cœur se soulève d'y songer. Ah, ces gouvernants d'aujourd'hui ! Nous, les proscrits d'à présent, nous nous les rappelons lorsqu'ils étaient représentants du peuple, il y a un an seulement, et qu'ils allaient et venaient dans les couloirs de l'Assemblée, la tête haute, avec des façons d'indépendance et des allures et des airs de s'appartenir. Quel superbe ! Et comme on était fiers ! Comme on mettait la main sur son cœur en criant « Vive la République !» Et si à la tribune quelque terroriste, quelque montagnard, quelque rouge, faisait allusion au coup d'État comploté et à l'Empire projeté, comme on lui vociférait « Vous êtes un calomniateur !» Comme on haussait les épaules aux mots du Sénat « L'Empire aujourd'hui, s'écriait l'un, ce serait la boue et le sang. Vous nous calomniez, nous n'y tremperons jamais !» L'autre affirmait qu'il n'était ministre du président que pour se dévouer à la défense de la Constitution et des lois. L'autre glorifiait la tribune comme le palladium du pays. L'autre rappelait le serment de Louis Bonaparte et disait « Doutez-vous que ce soit un honnête homme ?» Ceux-ci, ils sont deux, ont été jusqu'à voter et signer sa déchéance le 2 décembre dans la mairie du 10e arrondissement. Cet autre a envoyé le 4 décembre un billet à celui qui écrit ces lignes pour le féliciter d'avoir dicté la proclamation de la gauche qui met Louis Bonaparte hors la loi. Et les voilà sénateurs, conseillers d'État, ministres, passementés, galonnés, dorés. Infâmes, avant de broder vos manches, lavez vos mains.
Monsieur
Cubé va trouver
Monsieur
Aubé et lui dit Comprenez-vous l'aplomb de ce Bonaparte ? N'a-t-il pas osé m'offrir une place de maître des requêtes ? Vous avez refusé ? Certes. Le lendemain, offre d'une place de conseiller d'État, 25 000 francs. Le maître des requêtes indigné devient un conseiller d'État attendri.
Monsieur
Cubé accepte. Une classe d'hommes s'est ralliée en masse, les imbéciles. Ils composent la partie saine du corps législatif. C'est à eux que le chef de l'État adresse ce boniment. La première épreuve de la Constitution, d'origine toute française, a dû vous convaincre que nous possédions les conditions d'un gouvernement fort et libre. Le contrôle est sérieux, la discussion est libre et le vote de l'impôt décisif. Il y a en France un gouvernement animé de la foi et de l'amour du bien, qui repose sur le peuple, source de tout pouvoir, sur l'armée, source de toute force, sur la religion, source de toute justice. Recevez l'assurance de mes sentiments. Ces braves dupes, nous les connaissons aussi. Nous en avons vu bon nombre sur les bancs de la majorité à l'Assemblée législative. Leurs chefs, opérateurs habiles, avaient réussi à les terrifier. Moyen sûr de les conduire où l'on voulait. Ces chefs, ne pouvant plus employer utilement les anciens épouvantails, les mots jacobins et sans culottes, décidément trop usés, avaient remis à neuf le mot démagogue. Ces meneurs, rompus aux pratiques et aux manœuvres, exploitaient le mot la montagne avec succès. Ils agitaient, à propos, cet effrayant et magnifique souvenir. Avec ces quelques lettres de l'alphabet, groupées en syllabes et accentuées convenablement. Démagogie, montagnard, partageux, communiste, rouge, Ils faisaient passer des lueurs devant les yeux des niais. Ils avaient trouvé moyen de pervertir les cerveaux de leurs collègues ingénus, au point d'y incruster, pour ainsi dire, des espèces de dictionnaires où chacune des expressions dont se servaient les orateurs et les écrivains de la démocratie se trouvait immédiatement traduite. Humanité, lisez férocité. Bien-être universel, lisez bouleversement. République, lisez terrorisme. Socialisme, lisez pillage. Fraternité, lisez massacre. Évangile, lisez mort aux riches. De telle sorte que lorsqu'un orateur de la gauche disait par exemple « Nous voulons la suppression de la guerre et l'abolition de la peine de mort », une foule de pauvres gens à droite entendait distinctement « Nous voulons tout mettre à feu et à sang » et, furieux, montrait le poing à l'orateur. Après de tels discours, où il n'avait été question que de liberté, de paix universelle, de bien-être par le travail, de concorde et de progrès, on voyait les représentants de cette catégorie que nous avons désignée en tête de ce paragraphe se lever tout pâle. Ils n'étaient pas bien sûrs de n'être pas déjà guillotinés, et s'en allaient chercher leur chapeau pour voir s'ils avaient encore leur tête. Ces pauvres êtres effarés n'ont pas marchandé leur adhésion au 2 décembre. C'est pour eux qu'a été spécialement inventée la locution « Louis-Napoléon a sauvé la société ». Et ces éternels préfets, ces éternels maires, ces éternels capitouls, ces éternels échevins, ces éternels complimenteurs du soleil levant ou du lampion allumé, qui arrivent le lendemain du succès, aux vainqueurs, au triomphateur, au maître, à sa majesté Napoléon le Grand, à sa majesté Louis XVIII, à sa majesté Alexandre Ier, à sa majesté Charles X, à sa majesté Louis-Philippe, au citoyen Lamartine, au citoyen Cavignac, à Monseigneur le Prince Président, agenouillé, souriant, épanoui, apportant dans des plats les clés de leur ville et sur leur face les clés de leur conscience. Mais les imbéciles, c'est vieux. Les imbéciles ont toujours fait partie de toutes les institutions et sont presque une institution eux-mêmes. Et quant aux préfets et capitouls, quant à ces adorateurs de tous les lendemains, insolents de bonheur et de platitude, cela s'est vu dans tous les temps. Rendons justice au régime de décembre. Il n'a pas seulement ses partisans-là. Il a des adhérents et des créatures qui ne sont qu'à lui. Il a produit des notabilités tout à fait neuves. Les nations ne connaissent jamais toute leur richesse en fait de coquins. Il faut cette espèce de bouleversement, ce genre de déménagement, pour les leur faire voir. Alors les peuples s'émerveillent de ce qui sort de la poussière. C'est splendide à contempler. Tel qui était chaussé, vêtu et famé à faire crier après soi tous les chienlits d'Europe, surgit ambassadeur. Celui-ci, qui entrevoyait Bicêtre et la Roquette, se réveille général et grand aigle de la Légion d'honneur. Tout aventurier endosse un habit officiel, s'accommode un bon oreiller bourré de billets de banque, prend une feuille de papier blanc et écrit dessus « Fin de mes aventures ». Vous savez bien, un tel. Oui, il est aux galères. Non, il est ministre.